France Culture. Le journal, Julie Paco.
Bonjour à tous. Le cessez-le-feu précaire dans la bande de Gaza serait-il sur le point de voler en éclats? Deux frappes israéliennes ont été recensées sur le sud de l'enclave ce matin, tandis que Washington fait état d'informations crédibles sur une attaque préparée par le Hamas contre des civils gazaouis. Nous serons en direct de Jérusalem. Nous reviendrons sur le braquage spectaculaire au Louvre ce matin. Le célèbre musée parisien a été la cible de malfaiteurs qui se sont emparés de bijoux à la valeur inestimable, d'après le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez. Et c'est au musée de l'histoire de l'immigration que nous terminerons, où débute l'exposition Migration et Climat. Pour en parler, notre invité est François Gémen, chercheur en géopolitique de l'environnement et conseiller scientifique de cette exposition. Le Hamas préparerait une attaque imminente contre des civils palestiniens. C'est ce qu'affirme le département d'État américain, qui dit disposer d'informations crédibles en ce sens et qui prévient une telle attaque constituerait une violation directe de l'accord de cessez-le-feu dans l'enclave. Bonjour Michel Paul.
Bonjour Julie, bonjour à tous.
Correspondant de RFI à Jérusalem pour France Culture, le Hamas rejette ces accusations alors que l'armée israélienne a lancé ce matin une attaque dans la bande de Gaza.
Oui, tout cela montre la précarité extrême du cessez-le-feu en place depuis une semaine. En ce moment même, l'armée de l'air israélienne dit avoir mené des frappes après que des hommes armés ont ouvert le feu sur un véhicule d'ingénierie militaire à Rafah. Des tirs nourris de la marine ont également été rapportés par des sources palestiniennes. Des consultations sécuritaires d'urgence ont été convoquées par le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et l'extrême droite israélienne appelle à la reprise des combats sans plus attendre. À cela s'ajoutent ces accusations américaines selon lesquelles le Hamas prépare une attaque contre des civils à Gaza. Ces allégations ont été transmises par le département d'État au pays garant de l'accord, menaçant de mesures si l'attaque imminente se concrétisait. En réponse, le Hamas a affirmé que les faits sur le terrain démontrent le contraire et accuse les forces israéliennes d'avoir créé et armé des bandes criminelles responsables de meurtres et du pillage de l'aide humanitaire. Le Hamas justifie l'action de sa police comme un devoir national.
Et dans le même temps, Michel, Benjamin Netanyahou avertit dans une interview que la guerre ne prendra fin qu'avec le désarmement du Hamas.
Julie, Netanyahou ne donne que rarement des interviews en hébreu aux médias israéliens, exception donc hier soir, mais cela s'est produit sur une chaîne de télé privée ouvertement pro-gouvernementale. À retenir, le premier ministre israélien affirme que la guerre avec le Hamas prendra fin une fois achevée la seconde phase de l'accord de cessez-le-feu en cours à Gaza. La seconde phase comprend également le désarmement du Hamas, ou plus précisément la démilitarisation de la bande de Gaza, et avant cela, la confiscation des armes du Hamas, dit Netanyahou, qui sait très bien que le Hamas n'est pas d'accord du tout. Et en réponse à une question, il proclame son intention de se représenter aux prochaines élections. Benjamin Netanyahou est premier ministre en Israël depuis plus de 18 ans, avec quelques brèves interruptions.
Merci Michel Paul, en direct de Jérusalem pour France Culture. Les autorités israéliennes qui ont par ailleurs annoncé ce matin avoir identifié la dépouille de Ronen Angel, un des deux otages morts remis hier par le Hamas, âgé de 54 ans. Ce résident du kibboutz de Nir Oz avait été enlevé et tué par le Hamas le 7 octobre 2023, avant que son corps ne soit emmené dans la bande de Gaza. Engagé dans une lutte sans merci contre le trafic de drogue dans les Caraïbes, les États-Unis auraient violé la souveraineté de l'espace maritime colombien et tué un pêcheur dans une opération contre les narcotrafiquants. C'est ce qu'affirme le président colombien Gustavo Petro, qui demande des explications au gouvernement américain. Ces dernières semaines, Washington a mobilisé 7 navires ainsi que des avions de combat furtifs dans sa lutte contre le narcotrafic en mer des Caraïbes. Au moins 27 personnes sont mortes depuis début septembre dans des frappes américaines. La lutte contre le narcotrafic en jeu au cœur du second tour de l'élection présidentielle en Bolivie aujourd'hui. Un scrutin au cours duquel le conservateur Jorge Quiroga affrontera le candidat de centre-droit, Rodrigo Paz Pereira, ce dimanche. Les deux aspirants présidents promettent une lutte plus intense face au narcotrafic en hausse depuis quelques années. Après 20 ans de politique favorable aux producteurs de coca dans un pays où la culture de la coca est légale dans certaines régions, le retour de la droite au pouvoir devrait donc marquer un tournant. Un reportage de Nils Sabin.
On cueille d'abord les plus belles feuilles, puis celles de taille moyenne. On trie de cette façon. Dans la région des Yungas, à une centaine de kilomètres de La Paz, Lucy Camacho vient d'entamer sa récolte de feuilles de coca. En Bolivie, on mâche la coca pour ses effets coupe-faim énergisants, notamment dans les métiers physiques. Lucy Camacho.
Notre coca ne va pas vers le narcotrafic. 90% voire 100% est distribué pour être consommé traditionnellement.
Pourtant, une partie de la production des Yungas est bien déviée vers le narcotrafic. De plus, depuis quelques années, les surfaces de culture illégale de coca augmentent dans tout le pays. Face à ce phénomène, les deux candidats à la présidence, Jorge Quiroga et Rodrigo Paz Pereira, promettent d'avoir la main plus dure face au narcotrafic et à la production illégale de coca, par exemple en renforçant la collaboration avec les polices des pays voisins ou en nationalisant les deux marchés légaux de coca. Chez les cocaleros de Yungas, comme Monica Quispe-Quispe, cette promesse est vue d'un mauvais œil.
Nous sommes en période électorale. Cette proposition n'est pas inscrite à l'agenda législatif. Par contre, si dans un mois, l'Assemblée veut traiter une loi pour nationaliser les marchés de coca, alors là, oui, il faudra se mobiliser, manifester.
Un retour à des politiques de lutte frontale contre le narcotrafic donnerait lieu à de nombreux conflits sociaux dans le pays.
Elle était surnommée Mama Erasmus. L'italienne Sofia Corradi est morte hier à l'âge de 91 ans, méconnue du grand public. De nombreux étudiants lui doivent cependant une part de leur vie étudiante. Sofia Corradi était celle qui a imaginé le programme Erasmus, un combat débuté à la fin des années 50 et inspiré de sa propre vie, mais qui aura mis 30 ans à aboutir. Elsa Loswarn.
Sofia Corradi n'a que 23 ans lorsqu'elle obtient une bourse en 1957 pour étudier le droit pendant un an aux États-Unis. Un Erasmus avant l'heure qui vire au casse-tête administratif. À son retour à Rome en 1958, impossible de faire reconnaître son année d'études et la maîtrise obtenue là-bas par l'administration de son université italienne. Elle doit repasser des examens à l'université de Rome, obtient finalement son diplôme italien et se tourne vers une carrière d'avocate. Mais cette déconvenue lui inspire ce qu'elle appelait le projet de sa vie. Elle se donne pour mission de créer un socle légal pour permettre la reconnaissance des séjours d'études à l'étranger et ouvrir ses voyages aux étudiants des classes moyennes. Nommée conseillère scientifique de la conférence des recteurs d'université dans les années 60, elle rédige un mémorandum sur le sujet très remarqué en 1969, tandis que son poste lui permet de se tisser un réseau dans toute l'Europe pour présenter son projet. En 1987, son combat aboutit enfin avec la création du programme Erasmus. Presque 40 ans plus tard, 16 millions d'étudiants du continent ont pu bénéficier du programme pour faire leurs études dans un autre pays d'Europe.
Elsa Loswarn, correspondante de France Culture à Bruxelles. Quand le plus vaste et le plus visité musée au monde est victime d'un braquage, le Louvre est fermé au public depuis ce matin après un cambriolage éclair qui a eu lieu à l'ouverture du musée. Bonjour Servane de Paste.
Bonjour.
Plusieurs malfaiteurs ont profité des travaux pour s'introduire dans la galerie d'Apollon du musée et dérober plusieurs bijoux.
Les faits se sont déroulés entre 9h30 et 9h40. Trois ou quatre malfaiteurs sont arrivés en camionnette. Ils ont utilisé un monte-charge pour accéder à la galerie d'Apollon située au premier étage. C'est là que sont exposés les bijoux, de la couronne, des diamants, des parures en tout genre. Écoutez le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, qui est l'invité de France Inter en ce moment.
Ils ont fracturé la fenêtre et puis se sont dirigés vers un certain nombre de vitrines où ils ont dérobé des bijoux dont je ne donnerai pas la liste, hein, je crois qu'il y a une enquête judiciaire, mais qui sont des bijoux qui ont une vraie valeur patrimoniale et qui ont une valeur inestimable en réalité. Et puis ils se sont ensuite enfuis, ça a duré 7 minutes, hein, donc c'est un braquage important, manifestement une équipe qui avait fait des repérages, qui est manifestement aussi très chevronnée et qui a agi très très vite. L'ensemble des brigades centrales hein, de la préfecture de police vont être mobilisées pour retrouver ces auteurs. J'ai bon espoir que très rapidement nous en retrouvions vraiment les auteurs et surtout les biens qui ont été dérobés.
Les malfaiteurs étaient munis de disqueuses, selon nos confrères du Parisien, ils auraient pris 9 pièces de la collection de bijoux de Napoléon. Toujours selon les informations du Parisien, la couronne de génie aurait été retrouvée à proximité du musée, brisée. Le montant du butin est en cours d'évaluation. Aucun blessé n'est à déplorer, précise ce matin la ministre de la Culture, Rachida Dati. Une enquête a été ouverte par le parquet de Paris pour vol en bande organisée.
Servane de Pastre. Comment habiter notre monde à l'heure du dérèglement climatique? Question posée par le musée de l'histoire de l'immigration au palais de la Porte Dorée à Paris dans une exposition consacrée aux migrations climatiques. Exposition qui démontre que les déplacements de population ont toujours existé face au bouleversement du climat et élaboré donc avec deux conseillers scientifiques dont vous, François Gémen, bonjour.
Bonjour.
Spécialiste des questions géopolitiques de l'environnement, professeur à HEC Paris et co-auteur du 6e rapport du GIEC. Alors, quels ont été vos conseils aux quatre commissaires de cette exposition ?
Je pense que l'exposition cherche à casser quelques-unes des principales idées reçues qui nourrissent encore le débat public quand on parle des migrations liées au climat. On les voit souvent comme un risque futur qui se matérialiserait uniquement si nous ne parvenions pas à réduire substantiellement nos émissions de gaz à effet de serre. On les voit également comme des migrations de masse qui seraient une menace pour la stabilité de nos pays. Et donc, dans l'exposition, on essaye de replacer ces migrations dans le temps long en essayant de montrer combien l'environnement a toujours été un facteur marquant dans la distribution géographique de la population sur la planète. On essaye de montrer également que ces migrations qu'on voit souvent comme un tout uniformes, en réalité, prennent des formes très variées selon les endroits, selon les contextes, selon la vulnérabilité des personnes, qu'elles peuvent même parfois être une solution d'adaptation qui permet aux populations de faire face aux impacts du changement climatique. Et en réalité, nous essayons de remettre la figure du migrant au singulier, au centre du propos.
Oui, l'ambition de cette exposition, hein, baptisée Migration et climat, c'est bien aller au-delà de l'image des réfugiés climatiques, souvent caricaturés, agités comme un épouvantail, dites-vous, par certains représentants politiques. L'exposition se penche plus largement sur l'habitabilité de la planète.
Exactement, qui est une notion au fond très subjective, et c'est pour ça que l'exposition donne une très grande part aux expressions artistiques de ceux qui sont directement concernés par les impacts du changement climatique, et ça permet effectivement de donner à voir et de donner à entendre également, il y a plusieurs documents sonores, de donner à voir et à entendre comment les gens se représentent eux-mêmes l'habitabilité de l'endroit où ils vivent, et ça je crois que c'est un angle assez nouveau sur ces migrations qui sont souvent décrite comme menaçante, comme un danger pour la sécurité. Et il faut bien dire que quand on en parle, c'est souvent de façon assez plombante, comme si c'était une fatalité. Au contraire, ici, on donne à voir la diversité de ces mouvements de population.
Alors que le dérèglement du climat pourrait contraindre 216 millions de personnes à quitter leur foyer d'ici à 2050. Ça concerne énormément de monde.
Ça concerne énormément de monde. Et déjà aujourd'hui, en 2024, on a enregistré 46 millions de déplacements liés à des catastrophes climatiques. Simplement, il faut bien se rendre compte que derrière ces chiffres, qui sont évidemment impressionnants, il y a une multitude de situations et également une multitude de solutions qui sont souvent des solutions locales qui peuvent être déployées.
L'exposition veut montrer la force des humains et du vivant dans son ensemble à trouver des solutions pour continuer à habiter des territoires bouleversés. Ça, c'est ce qu'explique la directrice du musée Constance Rivière. Est-ce qu'il fallait donc faire appel aux œuvres artistiques pour interpeller le public ?
C'est quelque chose d'assez complémentaire. Il y a bien entendu des panneaux pédagogiques qui retracent les chiffres, les faits et les grandes données. Mais je pense que l'exposition fait aussi appel au sens et aux émotions du public qui viennent un peu compléter cette information un peu froide sur le changement climatique et qui permettent de dépasser effectivement cette logique des grands nombres et qui permettent aussi de donner un visage à celles et à ceux qui sont déplacés.
Et pour la première fois, une partie de cette exposition se tient dans les sous-sols du palais de la Porte Dorée, l'aquarium, avec des œuvres qui montrent des migrations plus silencieuses, celles de certaines espèces aquatiques qui migrent 6 fois plus vite que les espèces terrestres. Comment ces migrations sont intrinsèquement liées à celles des êtres humains ?
Tout à fait. Alors, c'est une des grandes originalités de l'exposition, en effet, puisque le bâtiment, le palais de la Porte Dorée, abrite à la fois le musée national de l'histoire des migrations et aussi un aquarium tropical. Et c'est la première fois que les deux institutions ont une exposition en commun qui, effectivement, montre aussi que les animaux et les végétaux migrent sous l'effet du changement climatique et que la migration des animaux notamment a un effet sur les migrations humaines. On montre par exemple un cas au nord du Sénégal où les migrations de poissons liées au réchauffement de l'océan ont un impact sur les migrations des humains et en particulier les migrations des pêcheurs. Et donc l'exposition essaie aussi de replacer l'humain parmi les vivants et montre qu'effectivement, différentes espèces réagissent parfois de la même manière aux impacts du changement climatique. Je crois que c'est une des grandes originalités de cette exposition.
Merci beaucoup François Gémen. Je rappelle que vous êtes professeur à HEC et membre du conseil scientifique de cette exposition Migration et Climat qui se tient jusqu'au 5 avril prochain au Palais de la Porte Dorée à Paris. Merci également à Loïse Guérin et Chloé Leprince pour la préparation de cette interview. Du gris et de la pluie au menu de votre après-midi, une perturbation perturbations s'installent de la Nouvelle-Aquitaine à la frontière belge et un ciel de traîne à l'arrière apportera des averses. Les éclaircies résisteront sur la Corse. Comptez 15 à 20 degrés sur la moitié nord, 20 à 24 en moyenne et jusqu'à 27 degrés sur le Pays Basque. C'est la fin de journal préparée avec Brice Garcia. Dalia à la technique.